Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nouvelle semaine qui nous conduira notamment à Strasbourg jeudi prochain à l'Institut d'études politiques pour une émission que nous enregistrerons le matin à 9h et que nous consacrerons à la laïcité. Vous y êtes tous conviés. Si vous êtes du côté de Strasbourg, tous les renseignements sont sur notre site franceculture.fr. Donner d'une main ce que l'on reprend de l'autre. À ce petit jeu, la diplomatie iranienne semble surpasser l'ensemble de la concurrence. Main gauche, hier, l'Iran faisait savoir qu'il souhaitait reprendre rapidement les discussions sur le dossier nucléaire avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Main droite, le même jour, Téhéran annonçait l'arrêt de ses livraisons de pétrole à la France et la Grande-Bretagne en réplique à l'embargo européen décidé fin janvier. Faut-il voir dans ce double langage un mode opératoire parfaitement maîtrisé, ou bien au contraire le signe d'un pouvoir affaibli, manquant cruellement de cohérence. Ce soir, à 10 jours des législatives du 2 mars prochain, nous avons choisi de nous intéresser à ce qui se passe en Iran et à ceux qui dirigent le pays, en particulier son président, Mahmoud Ahmadinejad, et son guide suprême, Ali Khamenei. Les sanctions internationales menacent-elles leur pouvoir? Doivent-ils davantage craindre leur propre peuple? Un hypothétique scénario bis de la révolte verte de 2009. Qui peut faire peur au régime iranien? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités ce soir. Fariba Ashtroudi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes née à Téhéran, vous vous trouvez en France depuis une trentaine d'années
à peu près.
Vous avez fait partie du Conseil national de la résistance iranienne et vous publiez il y a quelques semaines chez Gallimard, Ali Khamenei ou les larmes de Dieu. C'est un portrait du guide suprême de la République islamique. On apprend beaucoup de choses sur ce personnage extrêmement secret. On aura évidemment l'occasion d'y revenir au cours de cette émission. Pour discuter avec vous ce soir, Fariba Adelka, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche à Sciences Po pour le CERI, le Centre d'études et de recherches internationales. Vous êtes aussi d'origine iranienne et vous avez publié aux éditions Kartala « Être moderne en Iran ». Et puis d'ici quelques minutes, je l'espère vivement, nous serons rejoints par Ahmad Salamatian, ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères iranien. Il avait occupé ce poste en 1979. Fariba Adelka, je vais rappeler le thème de notre émission qui peut faire peur au régime iranien ce soir, mais peut-être pour mesurer ce qu'est aujourd'hui l'état du pouvoir en Iran, comment se porte aussi la société iranienne et de voir en quoi peut-être les sanctions internationales peuvent jouer ou non sur ce qui se passe à l'intérieur du pays, il faut avoir des éléments d'information sur ce qui s'y passe. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour travailler sur la société iranienne? Est-ce que c'est facile de récolter des informations?
C'est une excellente question. En fait, parce qu'étant donné que les nombres de visas sont effectivement très limités, les contrôles sur les journalistes également, ça fait qu'il y a peu de gens qui font va-et-vient, et puis le nombre même des chercheurs, je dirais. Donc c'est une situation effectivement pas très facile, y compris, je dirais, pour nous qui travaillons sur l'Iran. On surfe à la longueur de la journée sur des sites qu'on peut trouver ici ou là, où effectivement il y a une anthropologie ou une sociologie, on peut dire aujourd'hui numérique, c'est via Skype ou les téléphones, etc., qu'on essaye de parler avec des gens ici ou là. Donc ça, c'est un véritable problème, mais en même temps, je pense que c'est même voulu. Ça veut dire que c'est décidé, c'est volontaire. Et ils ont décidé de ça en disant que moins on parle de nous, moins il y a de confusion. Et plus on est maître de donner l'information directement par l'Iran.
Alors une société verrouillée sur le plan de l'information, même si vous disiez il y a les réseaux sociaux qui permettent quand même d'apprendre des choses. Pour vous, Fariba Ashtroudi, ça a été encore plus compliqué puisque au sein de cette société verrouillée, vous avez choisi de vous interroger vous intéresser au personnage qui est sans doute le plus secret de ce régime, Ali Khamenei. Comment est-ce que vous avez travaillé pour essayer d'en brosser le portrait ?
Depuis 33 ans, je suis de toute façon les événements d'Iran. Je me permets de dire que je ne suis pas vraiment plus journaliste. Je ne travaille plus du tout comme journaliste, mais je suis écrivaine.
Et pour mes recherches...
Non, je vous en prie, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, pour ce livre-là, j'ai dû faire une enquête journalistique très, très rigoureuse parce que de toute façon, ça a été mon métier pendant des années. Je me suis intéressée à Khamenei, que je connaissais assez bien, eu égard à mes années de lutte. Donc, il se trouve que beaucoup de gens avaient été en prison avec lui, ils le connaissaient de près. Mais je ne me suis pas fiée qu'à eux, parce que déjà, on a malheureusement une propension assez catastrophique à exagérer les choses. La rigueur scientifique n'est pas tout à fait du goût du schisme, du haut-décimant, où le taqiyé, l'art de la dissimulation, fait partie de l'ADN des Iraniens. Moi, ayant été éduquée ici dès l'enfance, et puis surtout ayant été parmi d'une famille laïque totalement et scientifique, mon père m'a bien fait comprendre qu'il fallait vraiment de temps en temps se méfier des camps d'Iraton, alors qu'en Iran, celui-là dit que, l'autre que. Donc, à chaque fois, j'ai dû vérifier 3-4 fois mes sources. Pour vous donner juste un exemple, quelqu'un que par ailleurs j'estime pour son art, mais il y a eu par exemple une dizaine, quinzaine de pages sur Khamenei par le cinéaste M. Marc Malboff. J'ai essayé de vérifier ça avec des proches de Khamenei, ou des gens qui le connaissent, et notamment ce colonel colonel au gardien de la révolution de la section de ROTS, qui est la section terrorisme international. Il a regardé ça, il m'a dit, il y a un dixième de ce qu'il dit est vrai. Tout le reste, c'est des blablas, c'est ce qu'on a raconté que. Donc, je suis allée vraiment pêcher des témoignages au plus près, c'est-à-dire le neveu de M. Khamenei, qui vit en France depuis pas mal de temps, ce colonel de l'armée des gardiens de la Révolution, réfugié dans un des pays nordiques, des gens qui l'ont connu, M. Sazgara, qui a été secrétaire d'État pendant des années au sein du gouvernement de la République islamique. Mais néanmoins, à chaque fois, j'ai essayé de revérifier, et chaque fois que je n'étais pas sûr d'une information, révélée.
Ali Khamenei, c'est celui dont on parle le moins par rapport à Ahmadinejad, qui est toujours mise en avant. Qui détient véritablement le pouvoir en Iran aujourd'hui? Est-ce qu'ils se le partagent l'un et l'autre?
Écoutez, ils se tiennent par la barbichette, on ne peut pas dire. Pour l'instant, c'est Khamenei qui détient vraiment le pouvoir, pour le moment. Mais ça ne veut absolument pas dire que d'ici deux jours, et ce n'est pas en plus un pouvoir, disons, absolu, étant donné qu'il a essayé d'éliminer Ahmadinejad, et il n'a pas pu, jusqu'à présent, il n'a pas pu. Ahmadinejad a énormément de renseignements sur toute la famille de Khamenei, sur tous les autres. Mais néanmoins, le pouvoir répressif tenu par le Beit, qui est la demeure d'Ali Khamenei, avec quelques personnages clés, 3-4 au gradé de l'armée des gardiens de la Révolution, et surtout les services de renseignement interne au Beit, parce qu'il faut savoir que maintenant, c'est réellement la demeure qui est un État dans l'État et qui essaye de centraliser tout au sein de... C'est comme si l'Élysée centralisait tout au sein de la présidence.
Fariba Adelka.
Vous avez un peu peut-être, pour moi, un peu vite résumé ce que je venais de dire tout à l'heure par verrouillage du système. Je crois que le verrouillage, c'est autre chose par rapport à ces limites d'informations que nous avons d'intérieur du sérail. Ce qui vient d'être dit par Mme Achoudi, c'est aussi très juste. Ça veut dire que vous avez une chose aujourd'hui, deux jours plus tard. Je dirais que c'est un pouvoir collégial. Je ne sais pas moi qui l'a dit la première fois, c'est Jean-François Bayard qui l'a dit. C'est un pouvoir collégial. Ça veut dire que vous avez toujours un groupe de personnes. C'est un pas en avant, deux pas en arrière. On sait aujourd'hui, on avance demain, on radicalise demain et on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus modéré deux jours plus tard. Donc, c'est un jeu plutôt, je dirais, encore une fois, c'est un pouvoir collégial. Donc, c'est à la fois très lent et à la fois très sûr. Parce que quand on est collégial, c'est le prix à payer. Ça veut dire, il s'agit de quand même d'un régime qui a pu résister sur 30 dernières années. Je dis souvent que c'est un succès, les gens m'apprennent comme quoi je suis en train de défendre. Mais succès en tant qu'un régime qui a eu à se battre contre une guerre pendant 8 ans, plus des sanctions qui ont duré sur 30 dernières années, si vous voulez, qui se sont renforcées tous les jours. Donc en ceci, on pourrait dire que ce régime collégial était quand même un facteur aussi qui a servi, qui a bénéficié à ce système de pouvoir survivre jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis survivre, ça ne veut pas dire seulement vivre dans la misère. Survivre, ça veut dire qu'ils ont un système D qui est quand même assez puissant. Le fait qu'on ne puisse pas aujourd'hui, avec des sanctions, comme vous voyez, on n'arrive quand même pas du tout. On essaye à chaque fois de limiter leur champ de manœuvre et on voit que ce n'est pas le cas et qu'aujourd'hui, si on regarde les élections d'aujourd'hui par rapport il y a la crise, disons, comparant à la crise de 2009, on voit que la République est encore une fois capable de sortir une option nouvelle qui est d'opposer, disons, d'avoir des conflits au sein de la droite et donc proposer quelque chose de nouveau et mobiliser à nouveau les élections. Et que les élections aujourd'hui en Iran sont de toute façon un enjeu puisqu'il y a plus de 5000 et quelques candidats. S'il n'y avait pas des enjeux, il n'y aurait pas 5000 et quelques candidats. Donc c'était leur capacité, à la fois, on pourrait dire, la flexibilité, la collégialité, et puis ces initiatives politiques qui l'en manquent pas, fort ou faible, on pourrait...
Une collégialité, mais qui n'empêche pas d'extrêmes tensions au sein de ce pouvoir. En tout cas, quand on vous lit Fariba Ashtroudi, on est assez surpris, finalement, de voir à quel point Mahmoud Ahmadinejad semble complètement aujourd'hui mis à l'écart, presque par un certain nombre de dirigeants iraniens. Et c'est ce qui semble aussi menacer Ali Khamenei. On a l'impression que finalement, plus grand monde ne dirige véritablement le pays.
Moi, je parle pas de pouvoir collégial. Moi, je l'appellerais absolument pas comme ça. Celui qui l'a appelé, c'est évidemment son total droit.
C'est mon collègue.
Peu importe. Vous savez, je ne suis absolument pas d'accord. Un pouvoir collégial, c'est un pouvoir féodalisé où il y a effectivement chaque petit groupe avec son réseau de gardiens de la révolution, chaque petit groupe avec ses petits personnages des renseignements. Un pouvoir collégial, c'est un pouvoir qui ne peut pas effectivement travailler main dans la main, étant donné qu'ils se font une guerre féroce au sein de ce pouvoir et qu'il y a, et quand Mme Adelkha parle de qu'ils ont encore la possibilité il y a 5000 candidats, il faut voir quels candidats et au sein de qui. Ce sont les candidats de la République islamique qui acceptent la République islamique, alors qu'en ce moment, au sein de ce pouvoir, il y a une faction qui demande la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, enfin du clergé et de l'État, si vous voulez, et qu'effectivement, il demande que monsieur Khamenei, qu'il y ait un référendum sur le fait de savoir si le peuple iranien veut encore un régime islamique de jurisconsulte. Ils n'ont personne ne met en doute le régime de la République islamique, mais le Velayat Farir, qui est le règne du jurisconsulte, si. Et en plus, il faut voir la répression. Madame Adelkha oublie de parler de cette répression féroce qui touche maintenant les proches même du pouvoir. Pourquoi M. Moussavi et Karoubi ne peuvent pas être, par exemple, candidats? Pour quel crime?
Voilà, qui ont été candidats à la présidentielle en 2009, qui sont aujourd'hui et depuis un an, me semble-t-il, pas tout à fait, assignés à résidence en Iran. Fariba Adelkha.
En fait, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je parle du succès d'un régime qui a résisté, la première chose. Je parle de sa capacité d'inventer, c'est la deuxième chose. Je ne parle pas du tout de son incapacité de réprimer. Et ça, c'est deux choses différentes. Politiquement, ils sont là. Je crois qu'à la voix de tout le monde, on pourrait dire que 32 ans, 33 ans après. Mais je ne parle pas de mode d'action qu'ils ont eu pour arriver jusque-là. C'est vraiment la confusion vraiment à éviter. Et puis, vous me parlez d'une crise. Moi, je pense que la crise, elle est très normale. Normal dans la mesure où 2009, vous avez fait allusion tout à l'heure, que 2009, il y a eu une crise électorale à cause des fraudes. Vous avez une élection sans gagnant ni perdant. C'est zéro partout à l'avantage des deux partis. L'un a le pouvoir présidentiel sans la rue, l'autre a la rue sans le pouvoir présidentiel. Ça fait la crise et aujourd'hui on est dans la crise, mais ceci n'a pas du tout empêché à ce que la droite vole en éclats. Ils sont divisés maintenant en 5-6 candidats, en 5-6 listes, 5-6 groupes, etc. Et donc c'est de cette force que je suis en train de parler. Donc on parle vraiment politique par le haut, mais ne me faites pas dire les choses que je ne dis pas, s'il vous plaît, je vous remercie.
Alors nous avons été rejoints par notre troisième invité, Armand Salamatian. Bonsoir.
Bonsoir.
Ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères, donc on est en 1979. Vous êtes réfugié en France depuis 1981. Vous avez publié avec Sarah Daniel aux éditions de la Villa, c'était fin 2010, « Iran, la révolte verte ». La fin de l'islam politique.
Point d'interrogation.
Point d'interrogation. Point d'interrogation avec quand même, à la fin de cet ouvrage, des propos assez optimistes sur la capacité que pouvait ou que pourrait avoir l'opposition qui s'était manifestée lors des la présidentielle de 2009 à se structurer, à faire changer les choses en Iran. Est-ce que vous diriez que 18 mois après, presque 2 ans, les choses ont changé. Est-ce que vous n'avez pas été un peu trop optimiste?
Vous savez, ce qui s'est passé en 2009, c'était la révélation d'une situation qui couvait depuis 3 décennies en Iran. On s'est trouvé avec un Iran en dos, de plus en plus lointain l'un de l'autre, de plus en plus anachronique l'un par rapport à l'autre. L'Iran que j'appelle l'Iran sociétal et l'Iran de pouvoir. En 1979, je peux dire que l'ayatollah Khomeini était le plus proche, au point de vue de son mental et son imaginaire, avec la société iranienne de l'époque. C'était entre les familiers que les mots d'ordre, les symboles passaient. Les symboles et le discours de Khomeini étaient le plus proche à l'imaginaire des gens. Parce que l'Iran sortait d'une société rurale qui venait s'installer en ville. Les villes iraniennes étaient remplies des villageois, des ruraux. Ils commençaient à faire l'apprentissage de l'alphabétisation. Ils commençaient à faire l'apprentissage de la politique. Et avec telle violence, avec une révolution. Un changement fondamental de tout. En 2009, vous avez une société où la ville est constituée, est avancée. Les gens ne sont pas seulement alphabétisés, ils ont fait des pas en avance dans la formation de l'individu. L'Iran est rentré d'une certaine manière en 1979 dans l'histoire, avec une accélération. C'est vrai que sa démarche est saccadée. Sa démarche est coupée de temps en temps. Mais il y a une démarche incontournable, irréversible, vers la modernité. Je dirais que les transitions différentes, démographiques, géographiques, urbaines, économiques, patrimoniales, s'étaient accumulées et culturelles. Et on est au seuil de la transition démocratique, politique. 2009 était important sur ce plan-là. Si je prends ça, je dis que la fracture entre le sociétal et le pouvoir s'est aggravée. Le pouvoir est de plus en plus enfermé dans un discours qui n'est plus même un discours idéologique religieux, un discours sécuritaro-militaire de plus en plus. Par exemple, les élections à venir, vous avez pratiquement pour chaque siège 3 candidats qui ont plus de chances de sortir des urnes, qui sont issus des rangs des gardiens de la Révolution. Et non pas n'importe quel rang. Les gardiens de la Révolution sont composés avec des officiers de terrain, ce que l'on appelle des soldats de rang, et ceux des services renseignement et des services d'action psychologique. Ce sont essentiellement déjà issus de ces services-là qui occupent la scène de l'élection et je vais vous donner un seul exemple. Jusqu'à cette élection, la raison la plus importante pour laquelle on éliminait un candidat, c'était de mettre en doute sa fidélité par rapport au principe de Velayat Fakih. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Un candidat qui ne croit pas fermement que l'Iran est en train de traverser une guerre douce. Un candidat qui n'accepte pas que l'ensemble du monde est en train de faire un complot pour transformer les élections en une action d'agression étrangère, il est éliminé. Et un candidat qui n'accepte pas de considérer M. Moussavi, M. Karoubi, M. Khatami, M. Rafsanjani, c'est-à-dire ceux qui constituaient plus de 90% de l'establishment de la République islamique il y a 3 ans. Comme des agents de l'étranger et des traîtres, ils ne peuvent pas être présents pour les élections.
Fariba Ashtrodi, vous y voyez un motif d'optimisme, le fait que le pouvoir s'isole, mais aussi réprime extrêmement durement. Il y a un long chapitre à la fin de votre livre qui concerne les droits de l'homme et la répression extrêmement forte. Ça ne donne pas tellement l'image d'un pays qui est encore au seuil de la démocratie.
Mais justement, comme vous avez vu à la fin de... Je suis entièrement d'accord avec l'analyse de M. Salamatian, très bonne analyse d'ailleurs en général, mais justement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec cette répression, comme vous l'avez vu dans mon livre, il y a des lettres qui sortent de prison. Gallimard m'a demandé, par exemple, comment vous avez eu ces lettres, non pas qu'ils ne me font pas confiance, mais... Outre la corruption généralisée, c'est-à-dire que vous payez le gardien, le geôlier, voire le tortionnaire, c'est que les gens n'ont plus peur. C'est que le petit-fils d'un grand ayatollah Sanei qui dit « j'irai jusqu'à la mort », comme M. Moussavi a dit « j'irai jusqu'au martyr, mais vous ne me ferez pas peur », ça, ce sont les gens... au sein du pouvoir, et 2009, le commun des mortels a montré également qu'il n'avait pas peur. Alors, optimisme, moi, je dirais que j'ai un peu plus peur. Il y a des jours, je me réveille en me disant ça peut être une catastrophe, parce que d'après ce colonel des gardiens de la Révolution, section de Rots, il me jurait et il me disait, madame, je sais de quoi je parle, c'est pas un enfant de cœur, il me jurait qu'une faction du régime serait pire que M. Kadhafi ou que M. Assad, etc. D'un autre côté, la population iranienne, comme l'a dit M. Salamatian, c'est-à-dire la fracture profonde entre cette population jeune, qui d'ailleurs n'accepte pas notre génération, qui n'accepte pas la violence révolutionnaire de notre génération, qui ne veut plus de guerre, qui est contre la guerre et qui est ouvert vers le monde, et la génération qui sait qu'il s'est trompé, quand Moussavi a le courage de venir écrire en disant « on s'est trompé et effectivement il faut qu'on fasse un mea culpa devant le peuple » et puis avant lui Montazeri, etc., c'est qu'il y a quelque chose de profondément, quelque chose qui a changé dans cette société. Donc ça nous laisse effectivement l'espoir de dire que la population est prête pour la démocratie. Mais est-ce que le pouvoir va lâcher si facilement? Eux, ils veulent la guerre, ce qu'a dit M. Salamatian, et ce que m'ont dit beaucoup de gens que j'ai interviewés. Il y a une faction du pouvoir qui veut la confrontation avec l'Occident et qui croit. Je veux dire, il y a des gens qui croient au sein de ce pouvoir que l'imam du temps va venir en leur aide, etc., etc. L'autre partie qui n'y croit pas pense qu'avec une guerre, il va y avoir encore la géopolitique de toute la région va être bouleversée et qu'il va y avoir les chiites derrière eux, etc., etc., etc. Parce qu'ils ont peur. Ils savent qu'après la Syrie, c'est leur tour. Leur tour va arriver. Donc, à la rigueur, une guerre, c'est mieux pour eux pour resserrer leur rang.
Fariba Adelka, vous souhaitiez réagir. Et puis ensuite, j'aimerais qu'on aborde, après les questions politiques, les questions aussi économiques et sociales qui sont importantes en ce moment.
Et on faisait allusion à quelque chose a changé. Effectivement, quelque chose a changé, mais pas seulement dans la société, mais aussi au sein du pouvoir. Donc, comme ils sont deux, je ne vais pas m'exclure de la communauté. Vous pensez bien qu'on n'a jamais raison quand on est seul. Mais j'ai envie de dire, puisqu'on parle des élections, en fait, ce sont des élections législatives. Les critères qui vont peser sur ces élections et sont très différents selon qu'on est dans les provinces ou quand on est à Téhéran. Si les critères sont très politiques à Téhéran et très influencés par ce qui s'est passé en 2009 et peut-être beaucoup, une très grande abstention, mais ça c'est la tradition à Téhéran, ils ne seront pas du tout de même, à mon avis, dans les autres provinces. L'Iran, c'est un pays pluriethnique, on oublie souvent de le dire.
Quels seront les critères alors?
Et donc, les critères d'ordre local, ça veut dire vous avez des notables, vous avez des gens qui ont... Regardez les nombres des candidats. Les gens qui se sont présentés aux élections, c'est entre 31 et 35 ans, un nombre très, très développé, élevé. Et sinon, entre 40 ans et 45 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au moment de la Révolution, ils avaient entre 10 et 15 ans. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment jeunes, ils n'ont pas fait la Révolution. Donc ceux de qui on est en train de parler en étant les agents de terreur dans la République islamique ne sont pas ceux qui se sont présentés aujourd'hui aux élections. C'est entre 40 ans et 45 ans, sur les 5 000 candidats, j'entends par là. Donc les critères d'ordre local, qui sont effectivement ethniques, qui sont de classe sociale, qui sont des familles familiales, communautaires, etc. Plusieurs, entre autres, par exemple, dans une région frontalière d'Azerbaïdjan, c'est entre les Kurdes et les Turcs que ça se passe. En fait, on oublie carrément Téhéran, c'est le conflit entre la population kurde et la population turcophone dans cette région.
Vous voulez dire qu'il ne faut pas trop attendre de ces élections législatives ?
Trop attendre, non. Je veux dire qu'il y a d'autres critères qui mobilisent en province et ils vont continuer à mobiliser, que ce n'est pas dépendant aux critères qui pèsent sur la société, sur Téhéran, par exemple. Et sur la question changement, je serais tout à fait d'accord à la fois avec Salamatian et Mme Achloudi, et M. Salamatian et Mme Achloudi. Le changement existe, mais le changement existe aussi au sein du pouvoir. Ça veut dire qu'il faut parler de silence de religieux aujourd'hui, qui se sont carrément retirés du cercle de la mobilisation politique. Il faut parler aussi de l'éclatement de la droite. Il faut parler de l'absence de réformateurs, mais aussi des gens qui vont de plus en plus se présenter comme autonomes et comme indépendants. Les indépendants vont avoir, comme on dit, ils vont arriver les phares éteints. On ne sait pas, ils vont aller vers Ahmadinejad ou vers quelqu'un d'autre. Les indépendants, c'est aussi une façon de jouer et que finalement, sur 300 candidats, le nombre de 50 indépendants peuvent peser dans la décision. Donc, ceux qui vont finalement mobiliser, c'est autre chose dans les régions frontalières ou dans les régions hors Téhéran que par rapport les débats factionnels qui ont leurs limites quand même quand on est à Téhéran.
Alors on a beaucoup parlé depuis le début de l'émission, et c'est bien normal, des équilibres et des rapports en ce qui concerne la sphère politique. J'aimerais à présent qu'on s'intéresse à ce que vivent les Iraniens de base, si j'ose dire. Il y a des sanctions économiques qui ont été prises à plusieurs reprises par la communauté internationale, notamment l'Union européenne. Et on commence à lire dans un certain nombre d'articles de journaux le fait que ces sanctions pèsent de plus en plus lourd sur la population iranienne. Ajoutez à cela peut-être aussi une politique économique menée par le président Ahmadinejad qui n'est sans doute pas la meilleure des politiques. Est-ce que davantage que l'appétit de démocratie, Ahmad Salamatian, ce ne sont pas les questions sociales qui menacent aujourd'hui le pouvoir iranien.
Les questions sociales, la pauvreté, les questions économiques sont très importantes. Mais attention, l'Iran n'est pas un pays, par rapport à ses voisins, un pays pauvre où il va y avoir des guerres du pain. L'Iran se compare avec le Pakistan, avec l'Afghanistan. Même avec la Turquie orientale, malgré le taux de croissance 12% de la Turquie d'Anatolie. L'Iran, c'est un pays pétrolier. Voyez-vous, depuis la crise du détroit d'Hormuz, le prix de baril a augmenté en moyenne de 15 dollars baril. C'est-à-dire les revenus pétroliers de pouvoir iranien ont augmenté de près de 20%.
Mais est-ce que la population profite des revenus pétroliers ?
Non. Et le problème le plus important, ce sont des crises endémique d'une économie spéculative où l'ennemi numéro un n'est pas les sanctions, c'est la mauvaise gestion populiste. Le problème numéro un de l'économie iranienne aujourd'hui, c'est le chômage. Il y a, d'après les chiffres qui ont été reconnus par M. Ahmadinejad lui-même, par année 2 300 000 personnes qui arrivent sur le marché du travail. Et l'ensemble de l'économie iranienne n'est capable que de fournir entre 300 à 600 000, dans l'optimiste ou pessimiste, d'emplois. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces millions de chômeurs qui viennent chaque année ajouter les rangs des autres? Ça, c'est donc dans la société iranienne, l'espoir de trouver un travail, c'est devenu un combat. Et le pouvoir, surtout depuis l'époque de M. Ahmadinejad. Son mot d'ordre, d'ailleurs, c'était « J'amène l'argent du pétrole sur votre table à manger ». Non, l'argent du pétrole devrait aller dans les rouages économiques iraniens. À tel point qu'aujourd'hui, face aux sanctions, il dit « Je fais du troc avec la Chine et l'Inde ». Mais ce n'est pas possible. La Chine et l'Inde ne peuvent pas fournir les besoins d'une économie qui n'est pas autarcique. Une économie qui a des connexions et des communications avec son monde extérieur. Voyez-vous, on a assisté dans les mois passés à des moments où, en une journée, le taux de change en Iran a changé de 12%. C'est des chiffres incroyables. Et aujourd'hui, M. Ahmadinejad, lui-même, même par ses associés, même par le guide, il est un fardeau. Cette politique économique populiste qui s'est ajoutée avec les sanctions. Le pouvoir iranien a intérêt à dire que ce sont les sanctions qui ont créé ces difficultés. Je suis désolé. Ici aussi, il y a des gens qui ont intérêt à dire « Ah, voyez-vous, nos sanctions sont utiles ». Moi, je dis que les sanctions politiquement, c'est une erreur. Parce que son première victime, c'est la population iranienne. Et la population iranienne, qui est une population qui s'est devenue mûre. Il ne veut pas faire un poker de sa vie et de sa mort. Il veut vivre. Ce n'est plus un peuple avec culte de martyr. Donc, il gère sa lutte. Aussitôt qu'il voit que la pression internationale augmente, je ne veux pas qu'il va s'agglutiner autour du pouvoir. Mais il dit, attention, je ne veux pas avoir le destin de l'Irak et de l'Afghanistan. Et je les comprends. N'oubliez pas, le changement sociétal iranien, son axe, c'est une classe moyenne éduquée. Et l'imaginaire de cette classe moyenne s'étend beaucoup plus au-delà même des lignes économiques de classe sociale. Et cette classe sociale, c'est une classe sociale qui est en train de accumuler les expériences de la démocratie et de passage à une bonne gouvernance. Ce qu'on reproche, le danger, l'ennemi numéro un de l'économie iranienne aujourd'hui, c'est la mauvaise gouvernance qui existe d'ailleurs pour la diplomatie iranienne. Le pouvoir iranien, M. Ahmadinejad, a lui-même accéléré les sanctions. Il s'est isolé de plus en plus. Tout cela, ça fait que pour moi, cette société et ce pouvoir, de plus en plus, même sur leur destin, sont face à face. Mais je voudrais ajouter un seul mot. Quand vous êtes en face d'un pouvoir faible, parce que le pouvoir iranien est un pouvoir faible, il prétend être fort, et que le seul moyen qu'il a, c'est de chanter, de faire des vociférations, de montrer des muscles. Et une situation internationale qui met en exergue ces gesticulations d'un pouvoir faible, et il commence à avoir peur de ce même pouvoir faible. Les faibles, en général, dans le domaine international, quand vous êtes dans des bras de fer durs, devient dangereux. Aussi bien le monde qui entoure l'Iran que le pouvoir iranien. Si on accepte qu'on est en face d'un processus politique qui peut prendre du temps, et on fait confiance à la société iranienne, ça sera beaucoup plus facile d'accéder à la démocratie que par les sanctions militaires et toute autre chose qui va accélérer autre processus en Iran.
Fareba Ashtroudi.
Je pense que la population iranienne en ce moment souffre effectivement beaucoup. Sur les sanctions, je serais un peu plus prudente, disons. Face à un pouvoir qui n'accepte rien, qui a refusé la main tendue d'Obama, qui a refusé qu'est-ce qu'on peut faire ? Effectivement, moi, il y a une chose pour moi, personnellement, en tant que citoyenne franco-iranienne, d'ailleurs, aussi bien en tant que française qu'en tant qu'iranienne, une guerre, jamais de la vie. Je veux dire, ça serait une erreur monumentale si on attaquait l'Iran, même les installations, etc. Ça serait une erreur monumentale, un désastre pour la population iranienne et pour la région. En revanche, pour les sanctions, même si leur portée est effectivement... Je veux dire, vous n'êtes jamais arrivé à changer un régime avec les sanctions.
C'est arrivé en tout cas extrêmement rarement. Voilà. Peut-être l'Afrique du Sud.
Exactement, extrêmement rarement. Et encore, le cas de l'Afrique du Sud est particulier. Mais néanmoins, que faire avec ce régime ? Effectivement, en ce moment, les sanctions portent quand même certains fruits, étant donné que la Chine déverse tous ces produits de troisième main en Iran, étant donné qu'ils payent une partie du troc pétrolier avec ça. Comme l'ont dit mes compatriotes ici présents, le peuple iranien a mûri, le peuple iranien n'est pas crétin. Tout ça se sait en Iran. Je veux dire, ça se retourne quelque part contre le pouvoir. On ne peut pas, on n'est plus au début de la révolution où il y avait 30 millions derrière M. Khomeini, où on disait tout vient de l'extérieur, la main de la CIA, le grand Satan, le petit Satan, etc.
Puis les sanctions touchent aussi le milieu des affaires. Mais, et le milieu des affaires peut ne pas se satisfaire forcément très longtemps de ce...
Totalement, absolument. D'où, je pense qu'effectivement, à côté des sanctions, c'est ce que je demande toujours, c'est ce que je demande en tant qu'une personne, mais je pense que je ne suis pas la seule, à côté de ça, il faut effectivement respecter le peuple iranien, il faut commencer à respecter les droits de l'homme, il faut commencer à vraiment exiger du pouvoir iranien le minimum syndical du respect des droits de l'homme et de dire effectivement, on veut parler avec un... Alors là, pour revenir, si c'était un pouvoir collégial, pourquoi ne pas exiger... Pourquoi, monsieur Moussavi et Karoubi, ce sont ni mes cousins et je ne voterai pas pour eux tant qu'il y a une république jurisconsulte là-bas. Mais pourquoi ces personnes doivent être emprisonnées parce que le peuple iranien, après tout, a voté pour eux. Donc, l'Union européenne, et je terminais là-dessus, la semaine bientôt va effectivement exiger le respect des droits de l'homme en Iran et essayer de faire des sanctions là-dessus. Il faut que ça aille avec les sanctions économiques. Tant qu'on ne respecte pas la population iranienne, rien ne pourrait changer dans ce pays.
Oui, mais ce qui fait peur aux puissances occidentales aujourd'hui, Fariba Ashtroudi, ce n'est pas le non-respect des droits de l'homme en Iran, mais c'est le programme nucléaire iranien. Fariba Adelka.
Sur cette même question, en fait, je voulais juste souligner le fait que l'Iran a une économie informelle florissante et que ça vit grâce à les frontières tout à fait ouvertes, d'une part. Et de l'autre, il y a 4 millions d'Iraniens qui sont soit en va-et-vient, soit se sont installés à l'étranger et que beaucoup des gens de ce même régime ont pris leur quartier d'été pour pouvoir bien détourner les fonds. Et que finalement, ces sanctions profitent à des gens qui savent bien détourner et créent des alliances entre l'Iran et Pakistan, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Iran, la Turquie, l'Iran et l'Afghanistan. Et l'Iran, peut-être Al-Raïdé, je n'en sais rien, mais on pourrait peut-être se poser la question à qui profite le détournement de fonds. Et puis, en dernier lieu, ce qui fait couler de l'encre aujourd'hui dans la société iranienne, ce n'est ni le nucléaire, ni la menace d'intervention des Américaines ou des Israéliens, encore moins le taux de chômage, c'est Mme Golshifteh Farahani et le fait de...
Alors, il faut préciser, c'est une comédienne qui fait carrière aujourd'hui à Hollywood.
Voilà, c'est aussi un fait, il faudra prendre en considération, je suis désolée, c'est aussi...
Le milieu de Téhéran, vous-même, vous avez dit qu'il ne fallait peut-être pas réduire l'Iran des quartiers nord de Téhéran.
J'ai dit ce qui fait couler l'encre, ça veut dire ce qui s'écrit.
Golshifteh Farahani,
ça peut... Il faut arrêter de faire la confusion, chère Madame Ashtroudi.
Pour que nos éditeurs comprennent. Juste pour que nos
auditeurs
comprennent, si vous voulez bien. Parce que c'est vrai qu'on ne saisit pas forcément toutes les subtilités du débat iranien, mais c'est une comédienne qui a fait carrière à Hollywood et qui a choqué parce qu'elle a posé nue dans un film. Armad Salamatian, pour terminer émission, est-ce que aujourd'hui, ce qui pose problème, et là on va revenir à un petit peu de géopolitique, c'est que justement la communauté internationale soit obnubilée par le programme nucléaire iranien et pas suffisamment intéressée par les aspirations du peuple iranien.
Vous mettez le doigt justement sur le problème. La crise nucléaire, c'est une aubaine pour le pouvoir iranien. C'est une mine d'or. Parce que ce pouvoir, tout d'abord, en prétendant qu'il va avoir l'industrie nucléaire, il se fait une masque de moderniste. Un pouvoir, pour lui, il y a pas mal de pays pour lesquels le nucléaire est le marque de moderniste. Pour moi, le nucléaire n'a jamais réussi à sauver aucun régime. Ce n'est pas une assurance à vie, complètement, contrairement à ce qu'il y a des hommes politiques qui ont dit en France. On ne peut pas prétendre que le nucléaire est une assurance vie que les uns et les autres s'offrent et dire aux autres que vous n'avez pas le droit à cette assurance vie. Non. Le nucléaire, c'est un danger pour l'humanité, pour les pouvoirs, et surtout pour les pouvoirs tels que le pouvoir iranien. Le peuple iranien en est conscient, parce que le nucléaire et la nucléarisation peuvent se développer à une nucléarisation de l'ensemble de la région, militarisation nucléaire, et à ce moment-là, l'Iran n'a pas la force de suivre la compétition. Et ce discours, en plus, est présenté pour les Iraniens comme un discours de deux poids et deux mesures. Voyez-vous, les Iraniens qui sont ouverts, ils lisent l'anglais, les informations, en tout cas la classe moyenne iranienne, comme le cas de Golshifteh. Voyez-vous, le taux de pénétration de l'Internet aujourd'hui en Iran, malgré les censures de l'État, dépasse 38%. c'est-à-dire plus important que la Turquie voisine, bien que c'est un système libre. Alors, ce monde qui est ouvert au monde extérieur, il est capable d'analyser les discours des uns et des autres concernant la différence de quelques grammes d'uranium enrichi et des têtes nucléaires, et l'Inde, je ne veux pas. Ça, c'est une situation. Moi, je dis, cette obsession occidentale que vous appelez la communauté internationale, sur les dérapages possibles de programmes nucléaires iraniens, c'est une manne dont le pouvoir iranien profite considérablement, sans mettre en ne pas faire attention au danger de prolifération nucléaire. Je suis conscient de ça, mais dit la manière que ça a été utilisé pour l'Iran, ça renforce le pouvoir iranien.
Merci beaucoup à tous les trois, Armat Salamatian, Fariba Adelka et Fariba Ashtrodi, d'avoir participé à cette émission assez enlevée, je dois le dire, ce soir. Les références de vos ouvrages respectifs, évidemment, sur notre site franceculture.fr. Un grand merci à Julie Gacon, Fanny Richet, Céline Leclerc, à notre stagiaire Gabriel Lombard, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la technique ce soir, Emmanuel Morse d'Incan. On se retrouve pour du grain à moudre, évidemment, demain soir, ce sera à 18h20.